Le Prix du Gros est fier de vous présenter le commentaire de Michel Villeneuve.
Catherine le matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se lève.
Salut Michel.
Salut Catherine.
Michel, t'écoutais quoi quand t'étais jeune?
Rien. J'avais pas le temps.
Comment ça? C'est quoi cette affaire-là? T'écoutais pas de
ben
musique?
Ben écoute, j'allais à l'école, je travaillais sur la ferme, je faisais du sport, la musique. Écoute, la musique faisait pas partie de mon environnement, j'avais pas le temps.
Mais à quel âge t'as commencé à écouter de la musique?
Lorsque j'ai connu mon premier amour.
Ah?
Oui, parce qu'elle était premier prix conservatoire.
Ah, OK.
Elle jouait de la clarinette.
Oh, OK.
Et je me suis présenté, imagine-toi, là, j'avais 18 ans, je me présentais au lundi du conservatoire de musique de Québec pour aller écouter ma blonde. Je te dis que c'était spécial.
J'en doute pas.
Des choses qui arrivent.
Absolument. Bon. Plusieurs choses à parler avec toi. Ben, on va parler du Canadien. Puis je veux t'entendre sur la chronique de Régent Tremblay ce matin. Là, Guy Lafleur qui dit qu'on est des pas fins. Le Canadien est pas fin avec Jonathan Drouin. On peut-tu parler de la semaine à venir, la dernière d'ailleurs?
Bon, oui. Écoute, d'abord, pour parler de l'article de Régent, c'est du Régent Tremblay typique. Hein?
Oui.
Lorsque quelqu'un est dans la merde jusqu'au cou, Régent trouve toujours le moyen de pondre un article et de trouver un intervenant pour lui permettre de prendre sa défense. Et mais je te dirais que aide-toi et le ciel t'aidera. Lorsque Guy se compare à ce qui se passe avec Jonathan Drouin, au moins Guy Lafleur avait le mérite, sa glace, de montrer de l'intérêt.
Oui.
Ce qui n'était pas toujours le cas de Jonathan à chaque match. Et je te dirais que si Jonathan Drouin avait été plus intéressé, s'il avait marqué 4 ou 5 buts de plus dans des moments importants, peut-être que le Canadien aurait déjà assuré sa présence en série éliminatoire.
C'est fort possible.
Ce qui n'est pas le cas.
Non.
Ce qui n'est pas le cas.
Non, en effet.
Et à regarder ce qui se passe actuellement, écoute, là on est vraiment... Il nous reste, tout le monde a encore 3 matchs à jouer. Columbus, Caroline et le Canadien. Columbus, je pense, est en voiture. D'ailleurs, je regarde les matchs à jouer. Columbus joue contre Boston, à New York contre les Rangers et à Ottawa. Caroline joue à Toronto, reçoit New Jersey et va jouer à Philadelphie. Tandis que le Canadien reçoit Tampa Bay, Washington et va jouer à Toronto. Le Canadien est le seul des 3 clubs qui n'a pas réussi à battre un de ses adversaires précédemment dans la saison. Donc, c'est pas de nature à nous rassurer. Sauf que le Canadien est allé gagner à Winnipeg samedi.
Ouais.
On s'y attendait pas. Mais moi, Winnipeg, là, tu parles d'une équipe décevante.
Ouais.
Mais en tout cas, et ils me déçoivent énormément. Je pense que c'est une équipe qui est largement surévaluée.
Oui, bien, il faut dire que l'année passée, ils ont connu une bonne saison et de bonnes séries aussi. S'attendait
c'est ça,
à mieux.
C'est peut-être une équipe qui est peut-être bâtie pour des séries éliminatoires, mais depuis 2 mois, c'est une des pires équipes de la Ligue nationale. Ils commenceront pas les séries sur le bon pied. En tout cas, on se croise les doigts. Le Canadien nous a rempli de surprises durant les 79 premières parties de la saison. Est-ce que ce soit la même chose durant la dernière semaine? On a eu du fun toute l'année, pourquoi pas cette semaine?
Dis-moi, t'évalues à combien, là? Mettons sur 10, une chance sur combien que le Canadien gagne? Que les Canadiens fassent les séries, en fait?
Sur 10, 3.
Ah oui, pas plus que ça?
Non, parce que t'as 3 équipes, puis les... Tu sais, puis même 3, là, je suis généreux.
Ah oui?
Je suis généreux. En tout cas, pour l'instant, pour moi, le Canadien n'est pas dans les séries. Je les avais pas classés dans les séries en début d'année non plus, puis ils m'ont fait mentir quasiment toute la saison.
Je le sais.
J'espère pour tout le monde que le Canadien va me faire mentir cette semaine, mais je suis pas très optimiste.
OK, parfait.
C'est clair.
Là, les espoirs que le Canadien signe, là, notamment le jeune Poehling, lui, on le ramène à Montréal pour lui faire vivre un peu la dernière semaine. Puis le jeune Primo s'en va avec le Rocket. Ça, c'est 2 jeunes. Est-ce qu'on va voir dès l'an prochain ou c'est une question de 2-3 ans?
Non. Je pense que dans le cas de Poehling, il va être avec l'équipe l'année prochaine. Lui, c'est l'exemple parfait d'un gars qui a peut-être joué une année de trop dans le hockey universitaire avec des coéquipiers qui n'étaient pas à la hauteur de son talent. On l'a vu la différence lorsque joue au championnat du monde de hockey junior. Il était choisi d'ailleurs le joueur par excellence des derniers mondiaux. Il était bien entouré. Il était capable de faire le travail autant défensivement qu'offensivement. Ça, c'est un joueur taillé sur mesure pour Claude Julien qui aime les joueurs complets dans les 2 sens de la patinoire. Mais c'est déjà un homme à 6 pieds 2 pouces, 200 livres. Déjà, je te dirais, je serais curieux. Je serais surpris qu'on le voit en uniforme. Mais il faudrait pas le placer devant Kotkaniemi tout de suite pour briser la confiance de l'autre. T'sais, il faut faire attention à ce qu'on va faire avec Poehling comparativement à Kotkaniemi. Là, Kotkaniemi est vraiment fatigué au bout du rouleau. Actuellement, il n'y a pas sa place dans l'alignement du Canadien. Mais est-ce qu'on va prendre le risque pour la santé mentale de Kotkaniemi d'amener Poehling à sa place dans un match? Je dis pas si le Canadien est éliminé, là, puis on veut avant le match le samedi prochain, puis on veut peut-être faire goûter un match à Poehling. Peut-être qu'on l'habillera. Mais pour l'instant, pour la santé mentale de Kotkaniemi, je l'habille pas.
Mais tu vois, ça, là, ça fait partie des aspects que je considère que le Canadien a mal géré. Tu sais, si Guy Lafleur s'en prend à l'organisation pour Drouin, moi, c'est ça qui me dérange. Si tu avais, au courant de la saison, tu avais dosé ses présences, mettons, lui faire sauter quelques matchs, tu mets Charles Hudon, tu sais, tu alternes entre les deux. D'ailleurs, Hudon, on voit bien qu'il est plus dans les plans pantoute, là. Donc, ça, tu vois, là, tu n'aurais pas un jeune brûlé qui est au bout du rouleau, qui n'a plus de gaz. Ça, ça a été mal géré.
Ouais, mais sauf que Catherine, lorsque le Canadien s'est mis à bien fonctionner, on a commencé à rêver. Puis honnêtement, le petit Kotkaniemi, là, joue aussi bien que n'importe quel centre durant une longue période.
T'as raison.
Sauf que là, tu sais, le long terme dans la Ligue nationale, c'est aujourd'hui. C'est pas demain.
Ouais.
Fait que là, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient lui donner. Le jeune a appris un paquet de choses, mais là, écoute, physiquement, là, il est plus capable.
Non, il y en a plus.
Fait que, regarde, il en a donné pas mal. Ouais. Si on est obligé de le mettre de côté à partir du 77e match, je dois te dire qu'on a fait un bon travail avec lui. D'ailleurs, c'était le cas. Lorsque les Joe Thornton, les Owen Nolan ont joué leur première saison dans la Ligue nationale, ils ont pas fait aussi bien que Kotkaniemi a fait. Puis Kotkaniemi n'était pas aussi bien entouré que ces gars-là à cette époque-là. Moi, chapeau avec la progression du jeune, mais là, tant qu'à l'exposer négativement, prenons un petit peu de recul, ça fera pas mal à personne.
Hey, question pour toi. Le texte d'Alexandre Pratt ce matin dans la Presse Plus parle du hockey féminin, la Ligue canadienne de hockey, qui a annoncé hier qu'elle cesserait ses activités dans un mois. Alexandre Pratt dit que la Ligue nationale doit sauver le hockey féminin. Est-ce que ça appartient à la LNH de faire ça?
Écoute, le hockey féminin, ça attire l'attention aux Jeux olympiques, soyons bien honnêtes.
Oui.
Va voir le hockey universitaire féminin, il n'y a pas un chat dans les estrades à part moi-même, mon oncle, ma tante, puis le chum, ou la chum.
Ouais.
Puis, ça attire pas. Puis le modèle d'affaires, comment tu veux faire vivre le hockey professionnel féminin lorsqu'il n'y a aucune exposure, pas de match à la télévision? Il y a une couverture dans les médias, mais elle est plus ou moins présente. Non, honnêtement, là, je vois pas d'avenir pour le hockey professionnel féminin. Je veux bien qu'on joue sur le volet amateur, mais la Ligue nationale, c'est avant tout une entreprise privée. C'est une entreprise qui est là pour faire des profits. Penses-tu que tu vas faire une scène avec le hockey féminin?
Non, peut-être pas, Michel, mais c'est parce que le point d'Alexandre Pratt, c'est de dire que la valeur... En fait, non. Pas le budget de la Ligue, c'est 3,7 millions. Tu sais, on parle pas d'une affaire de 10, 12, 15 millions. C'est pas énorme. Je me trompe-tu?
Non. Donc, si t'es pas capable de faire vivre le hockey féminin avec ce budget-là... On passe à autre chose, hein?
OK.
Ça diminuera pas l'intérêt pour le hockey. Les jeunes filles continuent de jouer. Tu sais que les jeunes Canadiens, les jeunes Québécois qui jouent au volleyball pour au basketball, leurs chances de gagner leur vie avec ça sont minimes, mais ça n'empêche pas le sport de progresser et les jeunes de participer.
Oui, t'as bien raison.
Le sport, c'est pas fait seulement pour avoir des professionnels. Le sport, c'est fait pour contribuer à ton enrichissement personnel.
C'est vrai.
À développer des saines habitudes de vie. Arrêtons de penser qu'il faut absolument qu'il y ait un modèle professionnel en haut pour satisfaire les besoins de la clientèle qui est en bas.
OK. En terminant, c'est très bien dit, Michel. Qui va acheter des alouettes, finalement? Toi, ça a l'air que tu n'es plus sur la liste. La rumeur disait que tu étais intéressé.
Une autre affaire. Y a-tu de l'argent à faire avec ça?
Parce que c'est du
sport professionnel.
Il y en a déjà eu.
Moi, j'aurais voulu voir les chiffres.
Ah oui? Non, mais dans le temps de Larry Smith, il me semble qu'avant, je sais pas, il se passait quelque chose. Je te dis que c'est pas bien invitant d'acheter des alouettes, on va se le dire.
Non. Je vais te dire une affaire, les gens qui veulent se lancer là-dedans, vraiment, ils le font pour poser un geste envers la ville de Montréal. Mais du côté seulement investissement, il y a peut-être juste Alexandre Taillefer qui va aller là-dedans, mais je sais pas si ça va marcher parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de succès récemment.
Non.
Mais honnêtement, là... Moi, je ne mettrais pas une scène noire là-dedans.
Non, mais moi, je propose un consortium. Alexandre Taillefer, Caroline Néron, puis Maë Paiement. Moi, je pense qu'on est en business.
Non, je te dirais, dans le cas de Maë Paiement, ben là, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort. Dans le cas de Maë Paiement et de Caroline Néron, ils ont mis beaucoup de leur affaire. Alexandre Taillefer a eu du succès dans sa première business, mais depuis ce temps-là, il a fait affaire beaucoup avec les gouvernements, puis il a été subventionné à gauche et à droite, puis on dirait qu'il a perdu sa touche magique.
Oui, visiblement. Hey, Michel, on s'en reparle demain.
Hey, bon déjeuner. Hey, j'aurais aimé ça être là pour vous aider à servir.
Moi, je t'envoie un pain.
Hey, as-tu passé dans la cuisine chez Pacini?
Pas encore, là. J'ai pas eu le temps. Tu comprends que je t'en ai.
Attention, porte de frigidaire, hein, c'est dangereux.
Je le sais. Salut. Bye. Salut, Michel. À demain. Michel Villeneuve, tous les jours, 7h40.